Voici Jean-Luc Mongrain.
Nous parlions à l'instant d'exploitation sexuelle de jeunes adolescents et de jeunes adolescentes, des mineurs, par des proxénètes, et le Québec a la fâcheuse étiquette d'être la plaque tournante de l'exploitation sexuelle de ces jeunes, et ce, à travers le Canada. Je vous demanderai pour les prochaines minutes de vous mettre dans la peau du monsieur que je vais interviewer à l'instant. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, et personne n'est à l'abri. Éric est avec nous. Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur Mongrain.
Je me permettrai de taire votre nom pour protéger l'identité de votre fille, si vous n'y voyez pas d'inconvénient.
Merci beaucoup.
Vous êtes le papa d'une fille qui a été victime d'exploitation sexuelle, probablement sous la férule d'un proxénète, pendant 2 ans. Elle avait 16 ans à l'époque. Comment ça a commencé, cette affaire-là? Comment a été son contact avec la possibilité de devenir un objet sexuel?
Bien, ça a commencé à l'âge de 15 ans. Comme tout adolescent, les jeunes, ils ont découvert Facebook. Moi-même, j'avais un Facebook, mon épouse aussi. Puis à un moment donné, elle nous a dit, « Papa, je me suis ouvert un compte Facebook. » Bon, OK, on voyait pas vraiment le danger au niveau de ça. Puis là, à l'école, elle subissait beaucoup d'intimidation, puis tout ça, elle avait pas beaucoup confiance en elle, elle avait des problèmes à l'école à ce niveau-là. Donc, à l'adolescence, c'est sûr qu'on recherche l'attention, on recherche la valorisation et tout. Et sur Facebook, malheureusement, elle rentrait en communication avec des pimps. Des gens qui faisaient du recrutement pour ce milieu-là.
Sans qu'elle le sache que ça en était. Elle n'avait pas une intention ou une volonté d'être participante volontaire à leur approche, là.
Ben non, c'était des amis pour elle, là.
Okay.
Parce qu'eux autres, ils promettaient, mère et monde, ils disaient, écoute, t'es belle, viens avec nous, on va fêter, tes parents sont sévères, nous, on va te gâter, on va t'acheter tout ce que tu veux. C'est comme un piège content, tu sais, puis ça se fait pas en dehors d'une heure, là. C'est des conversations qui se font régulièrement et nous, on n'est pas là-dessus. C'est pas une communication vocale, c'est tout en ligne, texto, via l'Internet. Puis pour nous, c'était difficile de voir les dangers de ça parce que si on aurait su c'est quoi les dangers de Facebook et les réseaux sociaux, c'est sûr qu'on serait plus mis le nez là-dedans. C'est sûr qu'on regardait des fois son Facebook, mais on voyait des amis, puis on n'a pas porté plus attention que ça. Fait que c'est comme ça que ces gens-là, ils ont rentré en communication avec ma fille, parce qu'évidemment, en tant que père de famille, j'aurais jamais laissé ces gens-là rentrer chez nous ou rentrer en communication avec mon enfant.
Elle est sortie de cette situation-là présentement.
Oui. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu multiples fugues parce que il y avait des rendez-vous qui se donnaient avec ces gens-là. Puis, à un moment donné, pour sa protection, on n'a pas eu le choix. On a dû avec beaucoup de à contre-cœur, dans le fond, de la placer au centre jeunesse, parce que ça arrivait pendant la nuit qu'elle se sauvait par la fenêtre ou quand elle était supposée de revenir de l'école, mais elle revenait pas. Fait qu'eux autres, ils fixaient des rendez-vous avec elle, puis ils allaient la chercher. Puis nous, tu sais, c'est sûr qu'on essayait de contrôler l'Internet le soir, on fermait le Wi-Fi, mais comme vous le savez, l'Internet, là, c'est partout. Les amis ont des cellulaires, tu t'en vas au McDo, tu t'en vas au Tim Hortons, n'importe où. Mmh. L'Internet, là, c'est facilement trouvable là, pour ces jeunes-là.
Quand elle ne rentrait pas, est-ce que c'était pour quelques heures ou si elle a fait des fugues plus longs?
Bien, les premières fugues, ça peut être quelques heures. Après ça, c'était une journée. Puis à chaque fois, bien évidemment, on appelle la police. Puis on fait des recherches pour la retrouver. Jusqu'à temps que sa dernière fugue là, avait duré 7 jours, puis elle s'était ramassée à Toronto.
Et ça a duré comme ça?
Pendant 2 ans.
2 ans de temps. Elle revenait, elle repartait, elle revenait, elle repartait. Et vous n'étiez pas capable de... Parce que, bon, ils sont fermés, ils sont pris dans un monde. Vous n'êtes plus une référence pour elle.
Pas du tout. On est complètement exclus de sa vie. Là. Elle nous voit comme... des gens qui veulent juste la brimer de son adolescence. On est trop sévère, on lui permet pas de rien faire. Puis, ils réalisent pas les jeunes en parlant avec ces proxénètes-là dans quel danger ils s'embarquent. Parce qu'à un moment donné, là, au début, là, c'est la conte de fées, là. Tu sais, ils te gâtent, ils te sortent au restaurant, ils t'achètent du linge. C'est le fun. Mais à un moment donné, là, ils te disent, ben, gars, faut que tu nous rembourses ça ou faut que tu nous aides. Puis là, tu t'en viens dans leur grippe. Puis là, quand t'es dans leur grippe, ben, là, ils te font travailler. Puis, qu'est-ce qu'ils font dans ce temps-là? Ben, ils disent, ben, écoute, la police commence à te chercher pas mal dans ce coin-ci. On va t'amener un petit peu plus loin. On va aller à Toronto. On va aller dans l'Ouest, Alberta. Il y a plein de places. Puis ça, il n'y a pas de problème, là. Ils viennent te chercher en auto, ils voyagent en autobus. Il n'y a aucun problème. Même dans le cas de ma fille, la police avait découvert qu'elle avait fait des photos. Puis ça en allait faire un passeport pour l'envoyer aux États-Unis.
Dites-moi, monsieur, maintenant, elle est revenue dans le giron familial?
Oui. Ça va très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, écoutez, elle est rendue à l'âge de 21 ans. Heureusement, il y a eu un déclic qui s'est fait. Elle travaille à temps plein. Elle s'est acheté un auto. Tout s'est replacé. Mais c'est sûr qu'elle a des séquelles. Bon. T'sais, moi, j'en ai. Parce qu'en tant que père, quand que ton enfant vit ça, tu le sais ce qui se passe dans le milieu. Écoutez, moi, quand elle avait disparu, là, je me disais, es-tu en train de se faire battre, de se faire violer, ou es-tu morte dans un fossé quelque part? On le sait pas. Je peux pas la protéger. Je ne sais pas où ce qu'elle est. Mm-hmm. Puis ces proxénètes-là, ben ils sont expérimentés parce qu'ils prennent le cellulaire à ta fille, ils enlèvent la carte SIM, ils donnent un autre cellulaire, ils teignent des cheveux, ils font faire des tatous, ils s'assurent qu'elle soit plus reconnaissable. Puis heureusement que la police de Laval puis les autorités policières là en Ontario, ils ont fait des grosses enquêtes. Puis j'ai été chanceux qu'on l'a retrouvé parce que j'étais à deux poids de la perte.
Dites-moi, quand on est un père puis qu'on retrouve sa fille puis qu'il y a eu ce déclic et puis qu'il y a une genre de réhabilitation, de réinsertion dans la cellule familiale, est-ce qu'on fait comme si ça n'a pas existé ou si on lui demande de nous dire ce qu'elle a vécu?
Bien, M. Mongrain, moi, je vais être franc avec vous, là. Je me suis construit un mur de briques. Puis, je voulais pas savoir les détails. En tant que père de famille, tu veux pas savoir ce qui s'est passé. J'ai eu des brides un petit peu au procès de son proxénète, parce que son proxénète, il a été arrêté. Alors, j'ai entendu un petit peu d'histoire d'horreur là durant le procès.
Est-ce qu'elle a témoigné à ce procès?
Oui.
Ça prend du courage, ça aussi. Donc,
oui, c'était... on l'a beaucoup supporté. Oui, on d'accord. l'a beaucoup supporté parce qu'elle voulait pas témoigner. Mais à un moment donné, on lui a fait comprendre qu'il a fait du mal. Puis que si elle prenait pas le temps de témoigner, ben il ferait du mal à d'autres jeunes filles. Puis c'est surtout ça. Là. Puis c'est pour ça que je parle aujourd'hui, pour essayer de, si je suis capable d'aider qu'une seule famille à savoir c'est quoi les dangers, puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour essayer d'atténuer ça, ben ça va me faire plaisir parce que je souhaite même pas à mon pire ennemi de vivre ce que j'ai vécu.
Quand on est un père, on aime son enfant, on a peut-être tendance à se culpabiliser. Y a-tu des choses que j'ai pas faites comme il faut? J'ai-tu manqué à quelque part? Est-ce que vous avez eu ce tourment-là?
Tout à fait. En tant que père de famille, le premier réflexe d'un parent, d'un mère ou d'un père, c'est de protéger son enfant. Puis quand tu réalises que ton enfant il est dans cette situation-là de vie ou de mort, puis qu'il arrive des choses horribles, ben tu te dis qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça que j'ai pas empêché ça? Mm-hmm. Tu sais, quand t'es dans ta maison, là, puis t'es couché là, ou t'es là, puis tu sais que ta fille est pas dans son lit, puis il fait moins 25 dehors, puis tu sais pas où est-ce qu'elle est, tu sais pas ce qui arrive, tu sais même pas si elle est en vie, tu t'en veux. C'est sûr que tu t'en veux.
Quand vous avez oui, allez-y, excusez-moi.
Non, mais c'est ça. Tu te dis, elle est où? Puis, qu'est-ce qui se passe avec elle? Puis, tu te dis, pourquoi j'ai laissé arriver ça? C'est sûr que j'avais cette pression sur moi-même.
Quand vous avez retrouvé votre fille, est-ce que c'est votre fille que vous avez retrouvée? Est-ce que c'était la même fille?
Au départ, non. Au départ, elle a été ramenée par la police. Elle avait les cheveux noirs, elle était amaigrie, puis elle jouait une cassette. Elle jouait une cassette, elle dit, je m'en fous, dans 3 mois, je vais avoir 18 ans, je vais marier le nom du pimp, je vais avoir des enfants, je vais avoir un gars puis une fille, mon gars va s'appeler tel nom, ma fille va s'appeler tel nom. c'est toute la foutaise. Ils sont programmés. Ça l'a pris, je pense, 2 semaines aux intervenants, là, au centre jeunesse, de la déprogrammer. Ils sont hypnotisés, ils sont programmés, ces filles-là. Ils c'est au quart de tour. Tu te dis comment qu'un salopard comme ça peut rentrer dans la tête du jeune puis la programmer comme ça. Tu te dis, je peux pas comprendre. Puis elle voulait rien savoir de nous autres. On était ses ennemis numéro un. Pourquoi que vous m'avez retrouvé? Pourquoi vous m'avez ramené ici?
Dites-moi, la première rencontre où il y a une ouverture de sa part, certainement de la vôtre, bien sûr, parce que vous n'attendiez que ça depuis 2 ans.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe? On se prend dans nos bras, on s'en va chez nous, on ne dit pas un mot. C'est la politique du silence qui est le meilleur pansement à cette plaie-là. Comment ça se passe?
Bien, ça se fait graduellement parce que, comme j'ai dit tantôt, quand elle a été retrouvée, elle a été envoyée immédiatement au centre jeunesse parce qu'elle n'avait pas 18 ans. Mm-hmm. Donc, elle a été envoyée à l'unité intensive. Donc, à l'unité intensive, c'est quasiment toute la journée, toute la soirée dans ta chambre. Ils surveillent tout. Fait que là, les intervenants, ils parlent. Et nous, on a des droits de visite. Donc, c'était une fois par semaine qu'on avait un droit de visite.
Ça ne doit pas être drôle la première fois.
Hein? Non. Non, ça n'a pas été drôle.
Mais parlez-moi de la dernière. Parlez-moi de la fois où vous l'accueillez chez vous.
Ben, quand on l'accueille chez nous, c'est le bonheur. C'est le bonheur de dire, regarde, mon enfant est en sécurité et est parmi nous. C'est pour ça que j'ai dit tantôt, tu te fais un mur de briques. Faut pas que tu penses à qu'est-ce qui est arrivé puis au négatif parce que c'est pas comme ça que tu vas rebâtir la relation avec ton enfant parce que ces filles-là, c'est des victimes. Tu sais, le jugement du monde de dire, ben oui, ben elle se tenait avec du mauvais monde. Non, c'est des victimes, ces filles-là. Ils ont pas confiance en eux autres. Ils se sont fait entourlouper. Puis là, ils sont brisés. Puis ma fille, puis moi, puis ma femme, on est brisés. Mon fils aussi, on est brisés. Mais à un moment donné, il faut se relever de ça. Il faut regarder ce qui est positif, puis de vivre le moment avec eux autres, puis de dire, regarde, on a passé à travers. Puis je me dis, à chaque fois, quand j'ai des petites pensées, bien, au moins, t'es avec moi.
Est-ce que vous vous regardez de façon différente? Vous n'êtes plus le père que vous étiez et elle n'est plus la fille que vous aviez?
On a changé. On a changé, c'est sûr. Il y a quelque chose qui il y a eu un déclic qui s'est fait suite à ça. On a cheminé. J'aime autant mes enfants depuis leur naissance. Mais on voit la vie autrement. On se dit, écoutez, on a passé à travers le calvaire.
Oui.
Puis merci au bon Dieu, puis merci à la vie de nous l'avoir ramené. Fait c'est comme ça que moi, je perçois la situation avec mon enfant.
Est-ce qu'elle a un copain?
Pas pour le moment.
Parce qu'elle n'a pas confiance aux hommes?
Non, elle a eu des fréquentations, mais il n'y a rien de sérieux. Mais je ne peux pas répondre à ça. Je ne sais pas si elle a confiance aux hommes ou pas. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui est brisé. Mais elle n'est pas isolée à la maison. Des fois, elle fait des sorties, elle fait des activités, mais il n'y a rien de sérieux encore.
Papa, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie, M. Mongrain, de laisser l'opportunité à parler de ce sujet-là qui me tient beaucoup à cœur. C'est mon cheval de bataille, puis tout ce que je peux faire pour aider les parents, puis aider. Si je remercie la CAQ, M. Lafrenière, je vous remercie beaucoup. D'en parler, parce qu'à un moment donné, là, ces événements-là, il faut que ça cesse.
Merci beaucoup, Éric.
Je vous en prie. Bonne journée.
Saluez votre fille.
Merci beaucoup. Okay. Au revoir.
On s'arrête pour une pause.